d'une grande prétention aussi. Il y a un aspect de folie des grandeurs, il y a un aspect démiurge. C'est Dieu qui punit des anonymes, qui lance la foudre à droite, à gauche, aux États-Unis. Je crois qu'il ne faut pas oublier, ce personnage aurait dû normalement être considéré comme fou. Il cochait toutes les cases de la démence, mais la police et le système judiciaire et l'opinion avaient besoin d'un vrai, vrai coupable.
Ben oui.
Je crois qu'il s'est lui-même jeté dans le piège en plaidant coupable parce que justement par prétention il ne tenait pas à être considéré comme fou. Voulait être considéré, rentrer dans l'histoire,
et c'est effectivement, il à sa manière, on peut dire, il est rentré dans l'histoire, même si c'est par une porte des plus sinistres. Merci infiniment Philippe Coste, Stéphane Berthomé, d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
Merci d'avoir écouté l'heure du crime. Et ne bougez pas.
RTL vous propose maintenant une rediffusion des grosses têtes présentées par Laurent Ruquier.
Bonne nuit et bonne écoute.
RTL, il est 3h. RTL, 24h d'info.
Après la mort d'une surveillante poignardée et tuée devant son collège de Nogent en Haute-Marne par un élève de 14 ans ce matin, le Premier ministre François Bayrou promet d'interdire la vente aux mineurs de tous les couteaux. Il veut élargir les interdictions à tous les types d'armes blanches. Annonce ce soir en direct sur le plateau de TF1. Le président de la République sur France 2 lui a emboîté le pas. On ne peut pas attendre, martèle-t-il. Le chef de l'État se donne quelques mois pour amorcer une mobilisation européenne sur le sujet. Pendant ce temps, la Marine Le Pen, elle, reste sceptique sur les propositions du gouvernement et fait le constat que le port d'armes blanches, déjà interdit, ne fait pas suffisamment l'objet de procédures judiciaires. À l'étranger, le président américain Donald Trump assure que Los Angeles est envahi par des ennemis étrangers. À l'occasion d'un discours sur une base militaire, il somme les Européens d'agir contre, je cite, une immigration hors de contrôle. En plus de la garde nationale, il a mobilisé 700 Marines pour encadrer les manifestations en soutien aux sans-papiers qui sont déportés en masse. Le gouverneur démocrate de Californie demande à la justice de l'en empêcher, accusant Donald Trump de se comporter comme un tyran. Emmanuel Macron l'a confirmé, il se rendra dimanche en visite officielle au Groenland, ce territoire qui appartient au Danemark et convoité depuis de longs mois par Donald Trump. Le président français veut éviter toute prédation et menace. Le territoire est situé dans un passage stratégique et dispose de nombreuses ressources naturelles. En France, taxis et chauffeurs VTC vont se mobiliser très tôt ce mercredi. Les premiers protestent contre la nouvelle convention régissant les transports de malades. Les seconds dénoncent la flux massif de nouveaux chauffeurs VTC sur les plateformes. Méfiance si vous prenez l'avion, le gros du rassemblement est prévu près des deux aéroports parisiens. C'est officiel, l'attaquant français Ryan Cherki quitte l'Olympique Lyonnais, son club formateur. Il s'engage jusqu'en 2030 avec les Anglais de Manchester City. Pep Guardiola, l'entraîneur, le voulait le plus tôt possible. Il va disputer la Coupe du Monde des clubs avec ses nouvelles couleurs. Prix du transfert, 42,5 millions d'euros, dont 6 de bonus et un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value future. Et toujours en football, le PSG retient les candidatures de Massy en Essonne et de Poissy dans les Yvelines pour construire un stade de 60 000 à 90 000 places, capacité bien plus élevée qu'au Parc des Princes, seulement 48 000, mais tous les projets d'agrandissement ayant été refusés. La météo de ce mercredi, encore une très belle journée ensoleillée après la dissipation des grisailles matinales qui seront présentes de la Bretagne aux Ardennes. Côté température, 20 à 27 degrés près de la Manche, jusqu'à 31 dans le reste de la moitié nord. Les maximales, 36 dans le sud, ce sera pour Bordeaux, Montauban, Agen et Cognac. Les courses, elles ont lieu à Caen aujourd'hui. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 10, le 5, le 6, le 4, le 3, le 2... Et le 13, l'outsider de RTL, le 13, Japlou Turgot.
RTL, 24 heures d'info.
Les grosses têtes sur RTL, la rediff.
Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête toujours en campagne. C'est la belle des champs, Karine Le Marchand. Ouais. Une grosse tête qui chez elle a plusieurs poubelles pour le recyclage des déchets. Mais évidemment, c'est Sacha qui trie. Isabelle Mergaux. Une grosse tête qui a changé de numéro sur les chaînes info, mais pas pour longtemps. Christophe Barbier. Une grosse tête grâce à qui les dinosaures n'ont pas complètement disparu. Richard Orlinski. Ouais. Une grosse tête qui a bien meilleure mémoire que François Bayrou. Paul Elkarat.
Bonjour.
Et une grosse tête actif sur scène, actif à la radio, actif sur les réseaux sociaux. Et le reste ne nous regarde pas.
Et très actif.
Jean-Philippe Janssen. Ouais. Faut expliquer quand même, hein, pas la sexualité de Monsieur Janssen. Non. Faut expliquer votre changement de chaîne, enfin plutôt de numéro, Monsieur Barbier.
Eh bien, je suis sur BFM pour l'instant et nous sommes passés de la chaîne 15 à la chaîne 13 à l'occasion du changement de numérotation.
Mais à la rentrée.
Mais à la rentrée, vous me retrouverez sur LCI, donc et sur la chaîne 15.
Donc pourquoi vous avez fait le déménagement, c'est idiot.
Ah oui.
Vous pensez que quitter BFM, c'est idiot? Non, j'ai été très heureux sur cette
chaîne. Appelez le 18. Appelez le 18.
C'est plus pratique pour les téléspectateurs. Ils ont les quatre chaînes d'infos à la suite. Oui. La zapette va plus vite. On peut espérer des citoyens mieux informés et chacun retrouvera sa chaîne.
Moi aussi, j'ai réuni les deux d'infos aujourd'hui.
Et la zapette.
Je crois que Mademoiselle Mergaux est un peu jalouse de la tenue de Mademoiselle Le Marchand.
Attends, elle se fait applaudir comme une malade quand elle rentre ici, évidemment. Elle a une jupe au ras du bonheur, enfin du bonheur. De l'ex-bonheur, sans doute.
Et encore, elle a un peu grossi parce que je l'ai nourrie ce week-end.
Oui, j'étais chez Laurent ce week-end. On était tous les deux en amoureux.
Le pire, c'est que c'est vrai.
Oui, mais je vous crois.
Il m'a donné la chambre juste à son étage.
Ah, au moment aussi, je suis allée. Oui, mais c'est un peu surfait.
Mais il y avait 40 ans.
Moi, j'ai trouvé que ça manquait de tiroir.
Hein. Ce qui est rigolo, c'est quand même que Karine Le Marchand m'avait dit surtout ne prépare rien à manger parce que je ne mange rien, je ne bois que de l'eau avec du citron ou du thé avec du citron. Bon, ben moi, il fallait bien que je mange quand même, donc j'avais préparé des repas. Elle a tout bouffé.
Ben oui. Ah, si tu lui mettes la bouffe, elle...
Ah
oui.
C'était horrible. Je me suis demandé s'il n'était pas envoyé par une chaîne concurrente.
Vous étiez que tous les deux.
Alors, au début, oui, puis après, on a fait venir quelques...
Des amis.
Quelques amis. Il se trouve que des amis, et particulièrement un ami de
Laurent
Karine
Petit-Guillaume,
Le Marchand, Laurent Petit-Guillaume, jouait... D'ailleurs, ça a vous touché, parce que jouait, chère Isabelle, avec Séverine Ferrer, Si c'était à refaire, la pièce que vous aviez jouée avec Pierre Palmade. Ça se passait à Deauville ce week-end, donc je suis allé voir la pièce jouée par les amis de Karine Le Marchand.
Il m'a proposé, il m'a dit, mais comme il y a Laurent là-bas, ben viens dormir à la maison, on ira ensemble.
D'accord, ben j'avais bien compris, Et alors...
Et c'était très très bien.
C'est la pièce, simple.
La pièce, tout. Très très bien.
Et l'actrice, comment
même
on
sans vous, super. C'était très bien. Séverine Ferrer, super.
Super. Non mais franchement, tous les comédiens.
Il faut dire que la pièce était très bonne.
Et ouais, c'est
bah, oui.
Non mais franchement, elle est géniale cette pièce.
Et le week-end, si c'était à refaire, vous referiez?
Ah bah bien sûr.
Il connaît ses classiques.
Il connaît tout Molière et Laurent Ruquier.
Mais je suis de bonne compagnie.
Mais vu, vu comment elle est habillée, c'est plutôt grosse chaleur. Hein.
Non, alors, c'est pas très beau là-bas.
Ah, il faut quand même savoir, parce que monsieur Jean-Philippe Janssen passe plus souvent des week-ends avec Karine Le Marchand que moi, parce qu'ils sont très très amis. Il faut quand même savoir, et moi j'ai découvert ça, qu'elle est hyper active.
Ah mais elle ne s'arrête jamais.
C'est-à-dire qu'on ne peut...
Ah, c'est fatigant.
Il faut pas laisser une éponge traîner, elle vous refait tout du sol.
Ah puis il veut.
C'est vrai.
C'est incroyable.
Bah, des c'est aussi une Excel. Question d'éducation.
Ah non mais vous devriez. Ah non vous devriez.
Je me rends
venir
pas compte.
On devait chier tout le monde.
Ah non vous devriez venir plus souvent parce que il me reste des trucs à nettoyer.
Non mais c'est vrai, c'est vrai. Faut que je m'occupe.
Ah ben oui c'est fou hein.
Elle n'arrête jamais.
Faut toujours qu'elle ait les mains occupées. Allez une première citation pour Achin Bettamar qui habite La Riche, c'est en Indre-et-Loire, qui a dit, et c'était à propos de la disparition d'une, on va dire, une pseudo-célébrité, qui a dit à sa mort l'a fait connaître, maintenant il peut revenir.
Sacha Guitry !
Oui !
Pour Guy... apprends ma culture dans ta face, Karine.
Pour Guy Meunier, on va réveiller le petit Paul Alcarat parce qu'il n'a pas encore dit un mot.
Bah, on vient de commencer.
Pour Monsieur Meunier, qui habite Gavrel dans le Pas-de-Calais, qui a dit « Tout s'arrange dans la vie, même mal ».
Voltaire.
Non, pas Voltaire.
Et c'est, mais c'est Rousseau, Diderot.
Ah non, non,
mais
Victor Hugo,
c'est Rousseau. C'est mort.
One Man Show.
C'est mort. C'est quelqu'un qui avait écrit aussi sous la plume de Grain d'Orge ou de Canalis. Mort le 1er novembre 1922 et né le 25 novembre 1857.
Se remettre dans l'ordre, hein, il a dit dans le mauvais.
Alfred oui. Capu.
Alfred Capu. Oh bon, réponse de Polo. On va nous mettre de bonne humeur comme ah, ça. Ouais.
Eh bien, voilà. Oh, mais je vais aller faire de la sculpture avec Richard. Hein.
Une pas grave. Pourquoi
hein? Bah, on est les deux qui avons le moins parlé depuis le début.
Ah. On s'en est bien un petit peu. Donc on y va, Paul?
Oui, allez, on y va. Allez,
allez qu'est-ce qu'on peut faire?
Vous avez sculpté quoi?
Les dinosaures, il adore les dinosaures,
ouais,
Paul.
On va sculpter un diplodocus.
Ah bon, moi j'en ai dit... moi j'en ai vu un diplodocus.
Non, non. Vous... non, vous avez vu un tripotanus. Vous c'est pas pareil, c'est pas pareil.
Pour Bastien Chenu, qui habite la Ferté-Gaucher, qui a dit « Ma femme, je ne saurais pas mieux la comparer qu'à une invention française. C'est moi qui l'ai trouvée et ce sont les autres qui en profitent. »
C'est drôle.
Pierre Duc.
C'est quelqu'un Blanche. Qu'on a ouais. rarement ah. cité. Un ah. écrivain, scénariste, dramaturge français.
Vivant.
Alors non, il est mort en 37, le 30 janvier 1900.
Henri Duvernois.
Ouf. Oh là là là, mais vraiment.
C'est Henri Duvernois. Excellente réponse de Paul Elkara. Première question d'actualité, le temps que je range mes questions avec ma petite main handicapée.
Oh, le pauvre, qu'est-ce qui s'est passé au doigt?
Mais je me suis...
on faisait l'amour. Il a glissé, parce qu'il n'est pas très doué avec les filles, il a glissé sur mon clitoris. qu'il n'a pas reconnu.
Il l'a coupé.
Il est tombé du lit. Et il s'est cassé
pas
le doigt.
Pas du tout. Je promenais mon chien et il se trouve que mon labrador n'aime pas les labradors au chocolat. Et,
oui,
et,
ah, donc il n'a pas aimé Karine.
Non, rien à voir. Nous nous promenions en forêt, Karine et moi, avec mon chien. Et là, il y a un labrador chocolat qui arrive. Et puis, ah, voilà, ils se sont frités. Les deux chiens ont commencé à se... Et il fallait les séparer. Donc, je me suis précipité pour les séparer. Ouais. Et là, j'ai...
Mais il avait plu, comme rarement en Normandie. Donc, le sol était humide.
Il n'y a pas que le sol qui était humide. Et là, j'ai chuté. Je me suis... Oui, je regardais.
Regardez, il est tout gonflé.
Il y a un hématome.
Ah, moi, il faut que je fasse quelque chose. Alors voilà, j'arrive, ouais. J'ai du mal à ma
mais
petite
quoi,
main.
Elle est gonflée.
Faut prendre de l'extranase.
Pardon, mais c'est pas
faut
mal.
Prendre de l'extranase.
Bah, j'ai déjà vous ici comme extranase.
Il est
c'est vrai que c'est un très bon antiodème.
Monsieur vous Laurent.
Oui, monsieur Alcarat.
Oui, c'est qu'avec les labradors chocolat, comme vous dites, qu'il a eu cette réaction.
Oh non, dès qu'il voit un mâle, vous voyez.
Ah oui, moi je fais pareil.
Non, parce que ça pourrait être raciste un peu.
Non, j'ai moi-même eu un labrador chocolat avant.
Oui. Non, je parlais de votre chien.
Ah oui, ouais. Je sais bien, oui, mais enfin bon. Les chiens sont pas racistes, contrairement aux hommes, ils sont moins cons, vous voyez.
Ils voient pas.
Les poules sont racistes.
Les poules sont racistes.
Oui. Ah,
tu t'es fait agresser par une poule.
Eh ben, c'est-à-dire que quand tu introduis une nouvelle race de poules parmi un cheptel de poules, elles se font dévorer et elles se font mais tuer à coups de bec. La seule façon, parce que les poules sont racistes mais connes, enfin ça va souvent ensemble.
Elles ont surtout mal au cul quand elles passent du coq à l'âne.
Non. Et donc, quand tu veux introduire une nouvelle poule dans un cheptel de poules, il faut le faire la nuit parce qu'elle dort. Et quand elle se réveille, ben là, ça passe.
Ah, parce ah,
non, mais je te jure, c'est très
con,
drôle.
C'est con, une poule, alors, bah, c'est vraiment con.
Dans le noir, ouais, ça passe mieux.
Ouais. Au réveil, ça va. Oh, bah, une nouvelle, ça va. Mais si c'est dans la journée, ça va pas.
Moi, c'est pareil drôle. Quand tu mets quelqu'un dans mon lit. Si tu le mets pendant la nuit, que je le réveille le matin à côté de lui, bah, je dis, oh, bah, il est intégré à mon paysage.
Vous permettez que je pose quelques questions?
Je vous en prie vivement.
Monsieur Janssen, je sais bien que vous n'êtes pas là pour répondre aux questions. Mais quand même. Vous avez fait quoi de votre week-end? Vous étiez en festival avec Valérie Mérès?
Oui, j'étais jury dans un festival de court-métrage.
Ça, mais alors, devait venir avec nous.
Et c'est court-métrage, c'est pas long, hein, ça va vite.
Donc, comme son nom l'indique, oui.
Ah, donc j'en ai vu plusieurs.
C'était où?
Ah, c'est du côté de Niort.
Ah, très bien.
À Benet, que ça s'appelait.
Et c'était à Benet, très, très bien.
Oui, j'étais avec eux.
Vous étiez ambassadeur.
Et puis après, j'ai fait l'anniversaire surprise de Sandrine Bonner à Angoulême. Voilà.
Et l'anniversaire de Valérie Mérès, rien alors?
J'ai envoyé un mot parce qu'elle était déjà repartie. Elle reste pas jamais longtemps, Valérie. Elle aime bien rester les casanières, elle vite La Rochelle.
Elle veut pas partager son gâteau.
Pour Alexandre Forêt, qui habite Montbron, c'est en Moselle, Montbron. Qu'est-ce que le Français Jean-Christophe Forel a célébré comme victoire ce week-end ?
C'est un sportif.
Ah bah oui, oui, ça.
C'est pas le cracher de noyau de cerise ?
Ah non, non, vous savez, on s'intéresse... Non, monsieur. Je ne sais pas où en est ton bébé, fait, enfin...
C'est vrai que le cracher de noyau de cerise, c'est pas terrible. Hein.
Mais enfin, ici, si vous voulez, on s'intéresse à de la vraie actualité, voyez-vous.
Un sport individuel ?
Un sport individuel, oui, absolument.
C'est du tennis ?
C'est natation ?
Donc c'est la victoire d'Alcaraz ?
Alors, c'est pas la victoire d'Alcaraz.
De Coco Gauff ?
Alors, expliquez.
C'est l'entraîneur de Coco Gauff.
Ce Français, Jean-Christophe Forel, est l'entraîneur de celle Gauff, qui a gagné Roland-Garros pour les femmes, Coco Gauff. Gauff. Bonne réponse de Paul Alcaraz, aidé par Christophe Barbier. Elle a plusieurs entraîneurs, hein, Coco oui. Gauff, elle a son père, mais elle a aussi un Français, effectivement, Jean-Christophe Forel, ancien joueur de tennis lui-même, évidemment, comme souvent, hein, les entraîneurs sont souvent d'anciens tennismen, y compris d'ailleurs les papas qui entraînent leurs filles, mais elle est forte, hein, Coco Gauff. C'est elle qui a éliminé notre petite Française.
Loïs Boisson. Il y a une exception, c'est le père des sœurs Williams, il n'était pas tennisman lui-même, il avait plutôt fait du basket, Richard, il a fabriqué des championnes.
Et Coco, c'est son vrai prénom ?
Coco, c'est son vrai prénom.
Elle s'appelle Cory plutôt.
Coco Gauff, c'est Stéphane Collaro qui a donné le pseudonyme Coco Gauff. Il y a que les vieux qui peuvent comprendre ma blague. Ah, oui.
J'espère qu'elle se parfume en Chanel.
Oh, Coco Chanel. Vous avez été Coco Girl, vous, Isabelle ?
Alors, j'ai passé le casting.
J'étais sûr. J'étais sûr.
Et j'étais très contente d'avoir un habit comme ça, de lapin, etc. Et tout, mais j'étais très, très maigre à l'époque. Ah. Et quand j'ai vu la cassette, après, j'ai compris pourquoi on m'avait pas pris. D'abord, j'ai pas le sens du rythme, alors donc j'étais toujours en contre-temps. Les filles faisaient ça, moi je faisais ça.
Coco-boy,
et puis, j'avais des jambes toutes maigres. Enfin,
non, puis il fallait être sensuel aussi.
Tu sais que je suis pas en forme, mais je vais te moucher tout à l'heure.
Ah bah mouchez-vous d'abord.
Et j'ai pas été prise, mais j'ai été prise dans le groupe d'écriture.
Ah, voilà. Ça veut tout dire.
Vous avez écrit les chansons et les sketchs pour les Coco Girls.
Pour le Collaro Show, là.
Voilà, faut expliquer pour les plus jeunes qui nous écoutent que dans les années 70, début 80, il y avait effectivement quelqu'un qui s'appelait Stéphane Collaro qui animait une émission très drôle d'ailleurs à l'époque.
Claire Nadeau.
C'était un carton, hein. Et c'était Coco Corico Boy. Aussi, hein. Puis il y avait des Coco Girls qui étaient, c'était la playmate du mois.
Ouais.
Les messieurs regardaient.
Mon père, il attendait ce moment-là avec impatience. Hein. Le vendredi, il y avait la playmate. Coco Boy. Coco Girl.
Sophie Favier, elle a été prise. Comme quoi, c'est pas parce que vous aviez un défaut de prononciation.
Bah, elle était beaucoup plus sexy que moi. Moi, j'étais toute mince. Mais j'avais mon sexe à pile. Bon, enfin, j'ai été prise pour.
Ah bah, et Karine aussi, d'ailleurs, vous l'avez laissé à la maison, votre sexe à pile. Vous avez regardé la finale masculine, parce que là, on parle de la gagnante Coco Gauff. Mais effectivement, c'est Carlos Alcaraz qui.
Il est beau.
Ah, vous voyez que ça, vous, il est beau.
Non, mais je l'ai encouragé parce qu'il était beau. J'ai dit,
parce que l'italien, il est moins beau. Alors
non, je vais vous expliquer. J'avais fait un pari avec un espagnol et il m'avait dit, si Alcaraz y gagne, je te promets qu'on passe une soirée ensemble. Alors tu penses bien que j'ai regardé le match pour voir qui c'est qui allait gagner. Et j'ai encouragé.
5h30 pour baiser.
Ça fait un peu long, hein.
Eh ben, n'empêche, grâce à lui, j'ai une bonne soirée cette semaine. L'autre, c'était un robot, il était froid. Tout était.
Il est froid.
Ah, il est froid.
Le mental.
Je l'ai vu à Roland-Garros.
Et l'autre, il a su reprendre la main. Hein.
Ah, vous étiez carrément dans les tribunes.
Oui, absolument.
C'est ça, les
bonnes. Voilà.
Et j'ai même été voir les joueurs. Et d'ailleurs, voilà. Mais t'es très sympa, d'ailleurs, le Carlos. Le Sinner était moins sympathique.
T'as vu Alcaraz? Oh là là, la
c'était vraiment.
Mais comment ça se fait que vous allez vous entrer pour aller voir les joueurs à
Parce qu'il y a mis une statue à l'entrée, peut-être.
Il a vu Alcaraz et non Alcaraz.
Les grosses têtes de nuit.
3h, 4h30 sur RTL. RTL.
Les grosses têtes répondent aux auditeurs.
Patrice est le premier auditeur au téléphone. Bonjour Patrice.
Bonjour Laurent, bonjour tout le monde.
Bonjour Patrice.
Bonjour. Et c'est bonjour
Paul Alcaraz, que vous surnommez Paul GPT, que vous voulez parler, c'est bien ça ?
C'est ça en effet. Du coup, vu sa nombreuse culture, j'ai quand même voulu faire un test pour le comparer à ChatGPT.
Ouais.
Et j'ai donc utilisé votre petit numéro de cirque, à savoir donner une date de naissance et une date de mort, et en demandant à ChatGPT, dis-moi qui est l'artiste né avec la date de naissance et date de fin. Alors, c'est vrai que vous avez un résultat immédiat avec Paul APT.
Oui.
Eh bien, ChatGPT mouline pendant plus de 20 secondes pour avoir un résultat et, wow. Et du coup, il n'y a pas photo, quoi.
Notre Polo est plus rapide ouais que ChatGPT.
Ah ben, ouais, je sais pas, hein.
Ah oui, oui. Bah, vous voyez, comme quoi, hein, l'intelligence réelle est meilleure que l'intelligence artificielle.
Qu'est-ce que je dis Patrice toujours?
Qu'est-ce que vous dites,
Qu'est-ce que je dis toujours?
Ah oui,
on
oui
préfère l'intelligence.
Mais comment vous le savez, vous? Vous faites quoi dans la vie, Patrice, hein, puisque vous avez le temps de faire des tests pareils?
Je travaille en usine de nuit, donc du coup, la nuit, il faut que je m'occupe.
Ah bah oui, évidemment, je comprends. Vous écoutez les grosses têtes en podcast ou en linéaire l'après-midi?
En podcast sur le chemin de l'aller et sur le chemin du retour.
Ah ouais, on vous envoie une montre RTL alors pour vous remercier, Patrice. Mathieu est au téléphone maintenant. Bonjour Mathieu. Et je crois que vous avez rencontré votre compagne grâce aux grosses têtes.
C'est comme ça qu'on a su qu'on s'aimait.
Ah, racontez, racontez tout alors.
En fait, on s'est rencontrés sur un tournage. Et on s'est rendu compte que c'était très compliqué de se retrouver pour se voir, parce qu'on avait des emplois du temps très complexes.
D'abord, sur quel tournage? Nous, on veut tout savoir.
Ah oui. Sur un tournage d'une web-série qui s'appelait L'Histoire en moins mort.
Mais ah, vous faites quoi comme métier?
Je suis comédien.
Ah, comédien.
Ah, oui.
Ah, donc vous lui avez oui fait croire que vous étiez amoureux, et après?
Et en fait, après, on s'est rendu compte que le seul moyen qu'on avait de se voir, c'était 4 jours dans les Cévennes. Sauf que moi, j'étais absolument épuisé, et je n'ai fait absolument aucun effort de séduction. Et donc, on s'est retrouvé dans les Cévennes pendant 4 jours, en jogging, claquettes, chaussettes, à écouter les grosses têtes, à regarder Fort Boyard et à regarder L'Amour est dans le Pré.
Et
on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes centres d'intérêt.
Mais c'est qui?
Elle s'appelle Laura. Et elle a pris presque mon nom il y a 3 jours, puisqu'on s'est mariés ce week-end.
Oh, félicitations, Mathieu et Laura. Eh ben, vous remercie, Mathieu, pour cet appel. Et on passe à Catherine. Alors, Catherine, avec son mari, adore Jean-Philippe Janssen. Ah. C'est bien ça, Catherine?
Qui ne l'aime pas? Bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Il faut dire que vous êtes du Schnorr, hein, j'ai cru comprendre.
On est du Schnorr, oui, c'est ça.
Près de Valenciennes.
Bon, ça s'entend pas.
Oui, près de Valenciennes, à
Aune. À Aune. Mais vous êtes allé voir Jean-Philippe à Bordeaux.
Ah. Oui, comme on n'a pas pu avoir de place bien placée sur l'île, déplacer à Bordeaux.
Wow. Eh ben, j'ai remarqué ça, c'est pas la première fois qu'il y a des gens, ils font plein de routes pour venir me voir, c'est dingue.
Ouais. Et à la fin du spectacle, on a demandé de te voir, et l'organisatrice est venue nous voir 10 minutes après en disant « Non, il n'y a pas de signature, pas de... »
Est-ce que je peux m'expliquer là-dessus? Parce que c'est vraiment un vrai problème, hein, qui me pose problème. C'est-à-dire que j'adore faire les dédicaces et aller signer aux gens. Sauf que maintenant, souvent, en province...
C'est le théâtre.
Non, il n'y a plus de restaurant ouvert
après 22h.
Donc, tu as l'organisateur qui te met la pression en disant « Bon, tu peux aller signer, mais à 22h, il faut être au restaurant parce qu'après, ils ne servent plus. » Donc, il est 21h55.
Tu dis « Je fais quoi ?»
Il faut signer au restaurant.
Mais comme je respecte mon public et que j'admire le fait que
c'est
vous ayez fait autant de routes pour venir me voir, je vais vous envoyer affiches dédicacées, cartes postales dédicacées et des prochaines places pour que quand je passe à Lille. Voilà, ça vous va?
Magnifique, franchement, somme touche, vous pouvez pas savoir.
On fait ça, comme ça me rattrape.
Et même la prochaine fois, il mange avec vous.
Oui, il dort chez vous.
Je pense que mon mari serait d'accord, hein, parce que bon, il adore aussi, donc.
Viens avec ton mari surtout. Ouais.
Ne l'oublie pas.
C'est bien les gens du Nord, ça. Allez, on passe à Sophie. Bonjour Sophie.
Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes, bonjour le public.
Alors
bonjour
Sophie, c'est à Richard Orlinski qu'elle veut s'adresser, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait.
Bonjour Sophie.
Bonjour Richard. Je suis inscrite sur une application qui permet de compter les pas qu'on fait dans une journée.
Oui.
WeWard.
Voilà, WeWard. Et il y a quelques mois, on pouvait peut-être gagner une statue de Richard.
C'est pas vrai?
Ah oui. Et ben, il était partenaire. Et je me suis dit que, vu la chance que j'ai au jeu, ben, j'avais plus vite fait de m'adresser directement à Richard via les grosses têtes.
Donc c'est un appel intéressé, en fait.
Plus ou moins, oui, parce que je suis aussi malheureuse en amour. Donc,
ah bon Je trouve Richard Orlinski très beau, très cultivé, très drôle, avec une voix très sensuelle. Et j'aimerais effectivement pouvoir gagner au jeu. Je comprends pas ce que c'est que ce jeu des 9 cartes. Alors, expliquez-moi, Sophie. Ou vous, alors, Orlinski.
Sophie, tu expliques ou on leur explique ou comment ça se passe?
Ah, vous la tutoyez déjà?
C'est normal. Ouais, tout ce qu'elle a dit sur moi, j'étais. C'est la première fois qu'une femme me fait autant de compliments. Donc...
Et il embrasse très bien, il embrasse très bien.
Qu'est-ce qu'on fait?
Donc en réalité, WeWork, c'est une application qui est aujourd'hui, qui est mondiale, qui cartonne, et tu t'es rémunéré avec le nombre de pas que tu fais. Plus tu fais de pas, plus tu gagnes d'argent. Et dans le cadre de cette application, on a créé des cartes que tu pouvais, des cartes virtuelles que tu pouvais collectionner un peu comme les Pokémon. Et dans Paris, tu bois, il y a des endroits, tu suis une map et tu peux attraper des cartes, etc. Et il y a un échange incroyable dans le monde entier. On s'échange les cartes, la carte Orlinski contre la carte Rome, contre la carte, etc.
Bah c'est pour encourager les gens à marcher.
Pour encourager les gens à marcher.
Mais c'est payé. Qui paye?
La boîte WeWork, c'est une application qui paye pour.
Alors, et toi, pas, tu payes l'application, tu payes un abonnement.
C'est une application.
Mais comment, c'est quoi leur modèle économique?
Ah, voilà, tout de suite, tu parles que d'argent. Pas d'argent dans la vie, Karine.
On connaît la femme d'affaires.
Il y a pas d'argent dans la vie. Laissez vos coordonnées, on trouvera quelque chose spécialement pour vous.
C'est vraiment les grosses têtes.
Merci beaucoup, Richard.
C'est vraiment l'émission de l'amour, les grosses têtes.
Ah, oui.
Parce qu'on a normalement aussi dans la salle quelqu'un qui m'a écrit, qui s'appelle Amélie, qui me dit, je suis dans la salle avec mon futur mari. Nous sommes pour 3 jours en amoureux. Où ils sont alors, Amélie et son futur
levez
mari
le
levez le
doigt.
Levez-vous qu'on vous voit tous les deux. Nous sommes à Paris pour 3 jours.
Embrassez-vous, embrassez-vous.
J'ai eu une demande en mariage hier pendant notre dîner au restaurant de la Tour Eiffel.
Attendez, moi je veux l'écouter pour voir comment il a dit.
Attendez, monsieur, vous l'avez grimpé, la Tour Eiffel.
La Tour Eiffel.
Vous avez fait tous les étages.
Deux grands fidèles de l'émission, ben voilà. Les grosses têtes réunissent les cœurs amoureux. Merci à vous. Une question pour monsieur Julien, Éric Julien, qui habite la Forêt-sur-Sèvre. Il espère un chèque RTL. Sauf, et là, il le recevra, sauf si vous trouvez quel était le surnom de Ptolémée XV.
Césarion.
Césarion. Excellente réponse.
Pas de chèque.
Alors expliquez qui était Césarion.
Le fils de Jules César et de Cléopâtre, qui n'a pas vécu très longtemps parce que à peine sa mère et son père décédés, a été assassiné par Octave et ses hommes, et l'Égypte a été directement rattachée comme province à l'Empire romain.
Ah, je savais pas qu'ils avaient eu un enfant ensemble.
Il avait quel âge?
Ils ont eu un enfant. Il avait 5-6 ans, il était petit. Ah oui, non, mais c'est un peu comme les hommes sont des animaux.
Oui, c'est vrai.
Ils tuent les enfants qui sont pas les leurs pour éviter qu'ils reprennent le pouvoir après quand ils grandissent.
Mais comment ça? Un enfant qui n'est pas allé leur, puisque c'était l'histoire.
Non, mais comme les animaux, certaines espèces le font, comme les lions.
Mais César, c'était bien son fils.
Mais c'est pas César qui l'a tué. C'est Octave qui a tué Césarion. Bah non, il n'a pas tué son fils. Il s'est fait assassiner, il était tout petit. Ensuite, sa mère s'est suicidée avec Marc-Antoine.
Ah bon ?
Marc-Antoine Lebré.
C'est les feux de l'amour, votre histoire.
Ah ben, vous savez, l'Antiquité, c'est les feux de l'amour, surtout l'Empire romain.
En tout cas, là, je peux vous dire qu'il y a une superbe exposition. C'est le Figaro qui nous le dit,
Cléopâtre.
Le mystère Cléopâtre à l'Institut du Monde Arabe. C'est jusqu'au 11 janvier 2026. Vous avez 6 mois quasiment, plus de 6 mois pour y aller. Ça vient de commencer jusqu'au 11 janvier 2026, le mystère Cléopâtre. Oh. Et alors, il paraît que c'est assez rigolo parce que ça va des choses les plus anciennes, évidemment, jusqu'aux choses les plus modernes, puisqu'il y a même le trône de Cléopâtre dans le film Astérix et Obélix, c'est-à-dire le trône de Monica Bellucci. Ouais. Vous voyez. Donc, ça va jusqu'à des choses plus amusantes et plus récentes. Vous auriez fait une magnifique Cléopâtre.
Mais il paraît qu'elle avait de ma couleur de peau.
Ben oui, c'est pour ça que je dis ça.
Ah oui, c'est pour ça que
c'était
bien.
Voilà. Et ce nez, ce petit nez là, c'est Ah là, vraiment.
Néfertiti.
Ne rêve pas, je ne vais pas me suicider.
Peut-être un peu.
Ah ben, toutes les deux, vous auriez pu faire Néfertiti et Gros Minet. Oh, je crois que j'ai vu Néfertiti.
Adou.
Non, mais il paraît que c'est une super expo. Vous l'avez vu, monsieur Barbier?
Non, j'ai pas encore vu l'expo, mais j'ai vu le papier. En effet, c'est passionnant.
Expo Cléopâtre, et effectivement, Ptolémée XV est le fils de César et Cléopâtre, fils, mort prématurément.
Oui,
assassiné.
Oui, j'exagère, il avait pas 6 ans, il devait avoir 12-13 plutôt.
Il a eu une belle vie.
Parce que j'ai fait le calcul entre l'assassinat de César et Octave qui gagne à Axiom, ça fait pas 6 ans, ça fait 12-13 ans.
Cléopâtre
Cléopâtre meurt en se suicidant avec des vipères.
Aspic, oui, avec ses deux servantes.
Alors justement, on la retrouve, Cléopâtre, sur une pièce. Là, je vois son visage de profil. Hein, le profil de Cléopâtre étant fort célèbre. Une pièce en argent frappée vers 46 avant Jésus-Christ, pendant son propre règne. Mais quelle est cette pièce de monnaie? Comment s'appelle-t-elle
à l'époque?
Comment vous dites?
Sesterce.
Sesterce, non. C'est une monnaie d'ailleurs qui a disparu en 2002, mais dans un autre pays.
Drachme.
Comment vous dites?
Drachme.
Le drachme.
En Grèce.
Excellente réponse, le drachme.
L'ancienne monnaie de la Grèce.
Une autre exposition dont on va parler grâce à la question pour Audrey Blanchard qui habite la Belliole dans Lyon. Et cette exposition nous raconte ce que Louis XIV a emprunté au pape Alexandre VII. Qu'est-ce que Louis XIV a subtilisé, même plus qu'emprunté, au pape Alexandre VII?
Une
perruque. Une perruque, non.
Une maison.
Une maison, non.
Un chasuble.
Un chasuble, non.
Quelque chose qui aurait, genre un linceul, quelque chose qui aurait appartenu au Christ.
Il lui a subtilisé une fille.
Pardon.
Une fille.
Comment ça, une fille?
Un être humain.
Un être humain, mais pas une fille.
Ouais. Un garçon.
Un garçon, oui.
Majordome. Oh.
Il lui a subtilisé.
Son fils, son
il lui a subtilisé peut-être un cuisinier.
Un cuisinier, non.
Un garde suisse.
Et il n'était pas content, le pape, hein, que.
Un jardinier.
Le nôtre.
Ouais, le nôtre.
Que le roi soleil lui pique. Non, un jardinier. Non, le nôtre. Non, le
un musicien.
Un
Lully.
Le vôtre, non.
Lully.
Lully. Non, un musicien.
Un
cuisinier. Non, un architecte. On se rapproche.
Charles Brun.
Comment vous dites?
Charles Lebrun. Le peintre.
Non.
Un designer de meubles.
Un designer de meubles. Non, mais on n'est pas loin.
Un paysagiste.
Suivez mon regard.
Ah,
un sculpteur. Un sculpteur.
Oui.
Ah. Il y a venu un
Coisevaux. Coisevaux.
Ah non, non.
Fouettevaux.
Ah, non.
Girardon.
Et d'ailleurs un sculpteur qui a réalisé le buste de Louis XIV en 1665.
Houdon. Ah non, 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 c'est pas le bon.
Il était même prévu, parce qu'il était aussi architecte, bien sûr, en plus d'être sculpteur, il était prévu qu'il refasse la façade du Louvre. Mais là, il y a Charles Perrault, celui des contes, les contes de Perrault, c'est la Merlois et compagnie. Il avait un frangin, Charles Perrault, qui s'appelait Claude, qui était lui aussi architecte. Et Charles Perrault, il a dit plein de mal de ce sculpteur-là pour qu'il perde, vous voyez, qu'il perde le marché.
Visconti.
Une cabale menée par l'écrivain Charles Perrault contre lui. C'est bien, bon, bah, il s'est rabattu sur le buste de Louis XIV plutôt que la façade du Louvre.
Est-ce que c'est pas Libéral Bruant?
Non, 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 non.
C'est pas Girardon.
Ah, c'est pas Girardon.
C'est un nom italien, c'est un nom qui sonne.
Alors, au départ, il a un nom italien et puis on l'a francisé. Son nom, on l'appelle même parfois le cavalier, El Cavalier.
Le Bernin.
Le Bernin. Ah. Bonne réponse de Paul El Karat.
Bah oui, fallait voir en Italie.
Ah ouais, à Rome, il y a plein de statues de Berlin. Qu'est-ce que c'est beau.
Gian Lorenzo Bernini, hein, c'est ça son vrai nom, évidemment. Oui. Gian Lorenzo Bernini, dit le Bernin ou cavalier Bernin. Et c'est vrai que c'est Louis XIV qui l'a piqué au pape à l'époque, Alexandre VII. On se piquait les artistes comme ça. Il paraît
vous
que
faites ça un peu aussi.
Ah bah, il paraît que Repin veut nous piquer Orlinski.
Ah oui, et pour nous mettre Michel Bassompierre.
C'est pas faux, pour mettre Michel Bassompierre.
Exactement. Il est beau le buste de Louis XIV par Bernin, là. Et il y a une exposition, voilà, je vous la conseille aussi. Le génie et la majesté, ça s'appelle. Louis XIV par Le Bernin au château de Versailles, carrément. Gian Lorenzo Bernini, vous le connaissiez, monsieur Barbier?
Ah, Le Bernin, oui, je connaissais, mais j'avais pas fait le rapprochement avec Bernini. J'ai été berné par Bernin.
Eh ben exactement, on peut dire ça. En tout cas, c'est une excellente réponse de monsieur Paul El Karat. Restons dans la culture pour Sandrine Bray. Mme Bray habite Caen, dans le Calvados. C'est là ma question. Ma question va être toute bête, hein, puisque je vais vous donner une petite comptine. Une comptine qui date quand même de 1609. Écoutez bien la comptine jusqu'au bout et après, vous me direz à quoi a servi cette comptine. Trois souris aveugles, trois souris aveugles. Voyez comme elles courent. Voyez comme elles courent. Elles couraient toutes après la femme du fermier.
Qui leur a coupé la queue.
Avec un couteau, avez-vous déjà vu au cours de votre vie trois souris aveugles?
Agatha Christie, Mousetrap, la souricière.
Excellente réponse de Christophe Barbier, qui va expliquer.
Agatha Christie avait entendu cette comptine qui court depuis le XVIIe siècle. Ça lui a donné l'idée d'une pièce de théâtre, Mousetrap, la souricière, qui se joue depuis 1952, sans interruption, à Londres. Et surtout, il ne faut pas raconter la fin quand on l'a vue, bien entendu, pour ceux qui pourraient aller la voir.
Il y a ce qu'on appelle un switch, un twitch, comment on dit?
Je sais pas comment on dit en anglais, mais en tout cas, c'est un coup de théâtre.
Un coup de théâtre,
un Deus ex machina. Le coupable est celui qu'on ne pouvait pas soupçonner.
Et oui, évidemment.
Il y a un article ce matin qui dit que les chauffeurs de taxi, quand vous allez voir la pièce, si vous leur donnez prenez pas un assez bon pourboire,
il
vous donne le nom du coupable.
Exactement. Divulgâcher. Effectivement, les chauffeurs de taxi, si vous leur donnez pas un bon pourboire avant que vous sortiez de la voiture, ils disent le coupable, c'est...
Mais surtout, on peut la voir en ce moment à la Comédie Française, au Vieux Colombier.
La souricière en version française. Le piège fonctionne encore. C'était le titre du Figaro aujourd'hui.
Les grosses têtes sur RTL, la rediff.
Béatrice est dans le Puy-de-Dôme. Bonjour Béatrice.
Bonjour Laurent, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Toutes
bonjour.
Les grosses têtes bonjour. Vous saluent et mes grosses têtes, vous le savez, vont tenter de vous piéger, chère Béatrice, avec leur fake news. En jeu, un ouais, séjour pour cool. quatre au Futuroscope. En famille, super. Vous pourrez passer une nuit à l'hôtel, petit déjeuner, chambre quadruple. Ça veut dire que vous pouvez y aller avec vos enfants, enfin faites ce que vous voulez, et assister aux nouvelles attractions, comme par exemple l'attraction Mission Bermude. Au Futuroscope, votre imagination sera votre seule limite. C'est le nouveau slogan que je crois avoir très bien interprété. Chère Béatrice, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous ?
Je suis ASH en pédopsychiatrie.
Oula !
Ah, une copine.
Assistante scolaire.
Assistante spécialisée pour handicap.
J'ai dit pédopsychiatrie, c'est les enfants.
Oui, bah oui, mais avant d'être adulte, j'étais enfant.
C'est ce qui veut dire, Paul, voyez-vous, Béatrice.
D'accord.
Eh ben, dites donc, vous avez la comprenette facile, vous. Béatrice, écoutez bien mes grosses têtes. 5 fake news, une seule vraie info. À vous de la retrouver pour partir, donc, je vous l'ai dit, au Futuroscope. C'est parti, on commence par Christophe Barbier.
Retour de Secret Story ce soir sur TF1. C'est François Bayrou qui devrait gagner grâce à Betarame.
Richard Orlinski.
Sommet sur la protection des océans. Emmanuel Macron a rappelé la disparition totale de Nicolas Bulot.
Isabelle Mergo.
Découverte scientifique. Un chaton aurait trouvé refuge dans la gorge du chanteur Garou depuis 1983.
Jean-Philippe Janssen.
Oui.
Suite à la victoire du PSG en Ligue des Champions, des supporters parisiens ont rebaptisé le boulevard Haussmann en boulevard Ousmane, en hommage à Ousmane Dembélé.
Karine Le Marchand.
Incompréhension au sommet de protection mondiale des océans à Nice. Le chef cuisinier, à qui on avait précisé qu'il ne fallait pas servir de sushi au thon, en a quand même servi aux autres.
Paul Elkarat.
Sommet des océans à Nice, toujours. Pour souligner l'influence du RN sur la politique gouvernementale, ce sera finalement du Macron mariné pour tout le monde.
Béatrice, qui a dit la vérité parmi tout ça?
Alors,
On peut vous redire, celle que vous n'avez pas bien comprise, enfin entendue, on peut redire.
Oh non, ça va, je vais essayer comme ça.
Oui, Béatrice.
Je vais faire une grande confiance à mon ami Jean-Phi.
Ah, vous allez direct sur Jean-Phi, alors.
Souvent, fils, oh, oui.
C'est-à-dire que le boulevard Haussmann, selon vous, a été rebaptisé boulevard...
Disons que les autres...
Ouais. Hein? Eh ben, vous avez gagné, Béatrice.
Bravo. Ouais.
Effectivement.
Merci.
Effectivement, on a remplacé provisoirement, évidemment, Haussmann par Ousmane, boulevard Haussmann, pour remercier Ousmane Dembélé de cette victoire en finale de la Ligue des Champions. Ne me dites pas que vous étiez aussi à Munich. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous étiez à Roland-Garros, monsieur Roland.
Je suis vraiment désolé, mais j'y étais aussi.
Oh.
Et je m'en excuse, vraiment. Voilà.
Ah oui, c'est
une très, très belle aventure.
C'est quoi cette vie qu'il a, celui-là?
Ah bah, c'est une vie de milliardaire.
Bah, tu m'as pas invité chez toi, Karine. Bah, tu sais, moi, j'ai ni été invité chez Laurent, ni chez toi, donc il va bien que je trouve un autre endroit où aller.
Eh ben, je t'invite officiellement cet été.
Ah, ça va. Et Laurent?
Oh, bah Laurent, il sait qu'il est tout le temps invité, bien sûr.
Non, mais est-ce que Laurent m'invite, c'est
ah,
ça?
Ah. Ah, bah pourquoi pas, oui.
Il y a une hésitation.
Ça, c'est un cri du cœur. Mais quelle spontanéité. Ah, j'ai compris.
La dépression.
Vous avez remarqué, non? Oui, bah oui.
Ouais, ouais. Tu pourrais mettre un beau dinosaure dans ton jardin.
Un T-Rex.
Un tripotène.
En tout cas, le boulevard Haussmann est bien devenu provisoirement le boulevard Haussmann. Ce sont des supporters, évidemment, c'est pas officiel. Des supporters du PSG qui avaient fait ce petit changement. Pour le reste, vous avez raison, Béatrice, tout était faux. C'est bien le retour de Secret Story, présenté par notre camarade Christophe Beaugrand, qui va faire son retour aussi aux grosses têtes cette semaine. On a toujours une petite pensée pour lui, vu ce qui lui est arrivé la semaine passée. Rien à voir, en tout cas, Secret Story avec François Bayrou et Bétarin. Pour notre ami Richard Orlinski et Nicolas Bulot, c'est évidemment faux, ça allait de soi. Oui, mais c'est vrai qu'il y a longtemps qu'on ne l'a pas revu, Nicolas Bulot. Mais il se planque. Dans sa coquille. Isabelle Mergault. Ah bah, Isabelle Mergault, c'était une vraie info, mais une vraie info fausse. Car c'était une vraie info du Gorafi. C'est le Gorafi qui a effectivement tweeté ce week-end. Un chaton aurait trouvé refuge dans la gorge du chanteur Garou depuis 1983. Pour ce qui est des sushis au thon, j'imagine qu'on ne sert pas de sushis au thon ni à personne d'autre. Pendant le sommet de la protection mondiale des océans à Nice, vous n'étiez pas là-bas à Nice?
Alors, je n'y étais pas. Mais attention, il y avait une table dressée pour tous les chefs d'État. Et devant cette table dressée, il y a eu un immense requin pour célébrer les océans, qui était un requin donc de
vous-même.
Création.
Oh, oui.
Et donc on voit la table, on voit le requin juste devant la table.
C'est pas vrai.
Oui. Un requin. J'ai la photo, je pourrais vous la montrer après.
Waouh, mais il est partout. Il est dingue. Il a dit si vous aimez bien Nice.
Non.
Ah bon.
Non, si vous aimez bien, je rigole. Bien sûr, il m'adore. Non, bien sûr, il m'aime bien. C'est une plaisanterie. C'était une blague. Non, mais je pensais que c'était une boutade, c'est pour ça.
Vous avez déjà fait un Christian Estrosi en
Kong.
C'est pas gentil pour Christian, ça.
Non, mais il est assez.
Christian, vous avez vu, il l'appelle Christian.
Il est assez corpulent, quand
même. C'est sûr. Non, j'ai fait un Napoléon, par contre.
Un Napoléon?
Ouais, pour mes amis corses.
En entier, avec la main de...
En entier, j'ai été critiqué, justement, par deux personnes, Christian, qui m'ont dit que j'avais pas pris le bon chapeau, c'était pas ça correspondait pas à la bonne... Bah oui, toi, t'aurais dû savoir, évidemment.
Le licorne.
Le licorne n'était pas bon. Aussi, par le fils Sarkozy, il m'a dit, non, mais c'est pas tout à fait le truc qui était...
il s'y connaît, le fils Sarkozy.
En bicorne?
Énorme. Il est une connaissance.
Bah, la plupart des politiciens, ils sont fascinés par Napoléon.
Non, mais lui, surtout, le fils. Ah
ouais. Il a fait un livre.
Et alors, tu vas la refaire, là?
Je vais la modifier pour eux, non. Non, elle est très bien comme ça. Je vais pas la modifier. Hein.
Et moi, tu peux me faire une licorne?
Pas une licorne, un bicorne. Ça n'a rien à voir. Béatrice, en tout cas, vous partez au Futuroscope. Ça fait plaisir.
Je suis bien contentée. Je peux
peux dire un petit mot?
Mais bien sûr.
Je voulais dire à Isabelle Mergault qu'elle a vraiment rien à envier aux Coco Girls.
Oh, oh, c'est mignon ça. C'est hypocrite, mais c'est mignon.
Non, c'est pas hypocrite du tout, je le pense énormément.
Mais, je suis d'accord avec mais vous, oui. Elle a un corps sculptural.
C'est dommage que personne n'en profite.
Oh non mais écoutez franchement alors là vous, je vous trouve dur avec
je l'adore elle ouais, sait que je l'adore
avec Isabelle parce que elle est quasi aussi bien gaulée que vous hein,
oui je dire.
Oh, faut c'est... pas exagérer non plus
si, si, elle est aussi bien non, j'aime beaucoup Isabelle
là aujourd'hui voilà. Ce que vous portez est très très joli ah, oui, on a l'impression que vous sortez c'est d'une sorte de c'est une sorte de James Bond girl
oui c'est ça mais...
à l'époque alors, à l'époque de Sean Connery
oui,
hein.
Oui, en noir et blanc oui.
elle a gravé ça. En plus l'âge auquel elle a fait l'amour la première fois et la dernière fois. C'est marqué 1955.
Ah, tu l'aimes vraiment beaucoup.
Je ne pensais pas être attaquée comme ça. Je suis que amour, je ne vais pas te répondre.
Ben oui, Béatrice, elle vous aime bien et la plupart de nos
moi
auditeurs
aussi, je l'aime.
Vous adorent. Vous êtes l'idole des grosses têtes, Isabelle.
L'idole, oui. L'idole, ça fait un peu supermarché pas cher. Hein.
L'idole des jeunes.
Un peu de génialité.
Vous pouvez pas dire grand frère. On vous embrasse, Béatrice. Une question pour M. Dubois, Françoise Dubois qui habite Le Havre. Et la question concerne un autre sculpteur, un sculpteur que vous connaissez peut-être, Arnaud Brecker. Mais qu'a-t-il fait ce sculpteur de très célèbre le 23 juin 1940
oh bah, il a accompagné Hitler pour visiter Paris.
Expliquer.
Hitler venait de conquérir Paris. Arnaud Brecker, c'était le grand sculpteur du Troisième Reich. Et il a servi de guide à Hitler pour visiter très tôt le matin la ville de Paris.
Excellente réponse de Christophe Barbier.
Grand ami de Jean Cocteau.
Arnaud Brecker, un sculpteur allemand, c'est lui qui a fait la visite de Paris au chancelier Adolf Hitler.
Eh ben, il paraît que c'est Orlinski qui avait visité Paris à Trump.
Ben, il connaît tellement de monde, c'est bien possible.
Il a aussi sculpté l'archétype de l'Arien pour les affiches de propagande hitlérienne.
Expliquez, expliquez.
Ben, il a fait le protecteur de la nation allemande, donc une affiche pan-germaniste pour dire L'allemand type, c'est un blond à la forte musculature, les yeux bleus, etc. Ah. Donc,
un peu moins, quoi.
Et donc, lui, il a contribué artistiquement à la propagande du nazisme, du Troisième Reich.
Non, mais c'est vrai que Jean-Philippe, vous ressemblez un peu... Vous êtes un bon à rien.
Oui. Ah. On l'a fait souvent, oui. Cette blague.
Ah, oui, oui, oui.
Vous connaissiez Arnaud Brecker, Orlinski ?
Pas du tout.
Ah ben voilà, il faut que M. Barbier soit là pour vous raconter l'histoire de la visite tôt le matin.
Hein. Oui, il est arrivé très très tôt le matin.
Il voulait croiser personne,
Il a fait la Concorde, les Champs-Élysées, il est allé au Trocadéro. On a la photo d'Hitler avec la Tour Eiffel derrière, il est allé à la Madeleine, il était de très mauvaise humeur.
Et pourquoi il était de mauvaise humeur, on sait ?
Il était de mauvaise humeur parce qu'il n'avait pas aimé certaines manœuvres de l'armée
allemande. Il n'avait pas fait caca. Tu dois faire la visite de Paris alors que tu as envie d'aller aux toilettes, c'est horrible.
Ah ouais. Ah ouais.
Voilà, voilà.
C'est dur de rebondir là-dessus. Moi, j'arrive
son sculpteur
pas.
Aurait pu couler un bronze. Hein.
Une question pour Pauline Etchard de Talence en Gironde, question culturelle. Là encore, je profite de la présence de messieurs Barbier et El Karat pour poser ce genre de questions. Qui fut le seul homme de la mythologie grecque violé par une femme ?
Hippolyte,
parfait. Non, c'est pas Ulysse.
Non plus.
C'est un héros plutôt viril ou c'est plutôt un enfant, quelqu'un
de fragile ?
Ah bah il est plutôt jeune garçon quand il est effectivement violé par une naïade.
C'est Jason ?
Non, une naïade qui s'appelle Salmacis, si ça peut vous aider.
Ça fait maladie. MST.
C'est un humain ou c'est une divinité ?
Ça fait MST comme prénom.
Ah, c'est un personnage de la mythologie grecque.
Mais humain, pas un dieu.
Alors, c'est pas un dieu, non.
Un demi-dieu ?
Un demi-dieu, non. Non,
même pas. Un quart de dieu ?
Pardon ?
Un quart de dieu ?
Même pas un caprice des dieux.
Un autre dieu ?
Hermaphrodite ?
Et c'est Hermaphrodite ! Oh, bonne réponse !
C'est facile.
De Paul Elkarat.
La thèse de l'amour.
Aïe, aïe, aïe.
Comme son nom l'indique.
Il a 15 ans, Hermaphrodite. Et effectivement, il est le fils Hermaphrodite.
Hermès et Aphrodite.
D'Hermès et d'Aphrodite, comme son nom l'indique.
Ah, oui.
Tout le monde ne le sait pas, ça c'est bien de le rappeler. Hermès et Aphrodite, d'où le nom Hermaphrodite. Et il a 15 ans. Il a 15 ans quand il découvre un lac merveilleux, un lac d'une beauté merveilleuse, sauf qu'il y a une naïade là qui s'appelle Salmalcis. Elle est bouleversée par le charme du jeune garçon alors qu'il est en train de se déshabiller pour s'élancer vers le lac. Et là, elle s'unit à lui contre sa volonté.
Oh là là.
Mais donc, comment elle fait?
Comment elle fait? Ouais, parce que s'il peut pas, il peut pas.
C'est la magie. Hein. Et oui, mais elle, comme elle a des pouvoirs,
elle obtient
des dieux que leurs deux corps ne soient jamais séparés.
Hein?
D'où, évidemment, le nom a presque devenu hermaphrodite.
Eh oui, deux garçons toujours en même temps.
Une personne qui a les deux sexes.
Voilà. Comme les escargots.
Voilà. Comme les escargots.
Et les huîtres?
Oui. Les huîtres ont deux sexes.
Je ne savais pas.
Comme les poissons.
Non, si elles changent de sexe.
Ah oui,
vous avalez une femelle et puis à l'intérieur, ça devient. Non, pas trop. Non, mais c'est vrai.
Mais vous en avez déjà vu des vrais hermaphrodites?
Non, jamais.
Vous, monsieur Jean-Fic, avez quand même beaucoup voyagé.
Oui, je comprends le sens de votre propos, mais non, je n'ai pas vu.
Vous comprenez le sens de mon propos?
Oui, je n'ai pas observé.
Mais ça existe vraiment?
Moi, j'en ai filmé.
Oui.
Pour une émission que je produisais et il y en a de plus en plus, notamment dans les campagnes, à cause des pesticides. Et malheureusement, c'est un scandale parce que il faut déterminer le sexe de son enfant dès la naissance. Donc les parents sont obligés de faire un choix pour le sexe de leur enfant alors qu'il n'est pas déterminé, il est tout petit. Et malheureusement, comme il est plus facile de faire un sexe féminin qu'un sexe masculin, en général on tranche, c'est le cas de le dire,
pour
un sexe féminin et on donne de l'hormone aux enfants.
Vous avez déjà eu deux sexes, vous, monsieur, en même temps, je parle, monsieur.
Oui, mais c'était pas dans le cas de l'hermaphrodite.
C'était pas dans la...
Ils étaient juste plusieurs.
J'ai tranché.
Je donne une deuxième chance à Madame Pauline Etchard qui habite Talence en Gironde. Saurez-vous retrouver une célèbre réplique? Là, c'est pour Monsieur Barbier, évidemment, que j'ai sélectionné cette question. Madame Etchard a quand même une chance de gagner 300 euros, même si on le sait, Christophe Barbier connaît normalement tout le répertoire français par cœur. Je vais vous parler de l'avare de Molière. Dans l'acte 1, scène 3 de l'avare, la flèche, c'est un personnage, la flèche, ose s'exclamer devant Harpagon: la peste soit de l'avarice et des avaricieux. Ouais. Et là, Harpagon s'énerve et il se demande s'il parle de lui. Alors, l'insolent serviteur répond, alors qu'il n'a évidemment cité personne, par une célèbre phrase. Laquelle?
Oh là là, et puisqu'il répond, je dis que la peste doit maudit soit l'avarice et les avaricieux. Il dit
oui.
Ça,
oui. Non, ça, c'est ce qu'il dit avant. Oui, n'ai pas bien compris ma question.
Qu'est-ce qu'il répond?
Concentre-toi.
Il répond par un proverbe.
Un proverbe, c'est quasiment devenu, si ce n'est un proverbe, en tout cas une expression. Oui, c'est devenu.
Celui qui dit qui est.
Ah. Oui, c'est quelque chose.
C'est pas mal.
Celui qui mal y pense.
Non.
Celui qui veut tuer son chien l'accuse d'avoir la peste.
Non, ça c'est dans les femmes savantes.
Oh, c'est pas.
Et c'est vraiment.
Ça s'appelle.
Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras.
Non.
Mais ça se rapproche de celui qui dit.
Si vous voulez, je fais la scène. Hein.
D'accord.
Alors, c'est Harpagon qui démarre. Alors, je vais vous faire le vieux pour Harpagon. Il est en dialogue avec la flèche. Donc, Harpagon, il fait: je me mets en peine de ce qu'il faut. Je fais bien le vieux. Hein. Pas beaucoup à me forcer. Qu'est-ce que vous croyez que je veux parler de vous? Je crois, mais je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis cela. Je parle à mon bonnet. Et moi, je pourrais bien parler à ta barrette. M'empêcherez-vous de maudire les avaricieux? Non, mais je t'empêcherai de jaser et d'être insolent. Tais-toi. Je ne nomme personne. Je te rosserai si tu parles. Et là, la flèche dit la fameuse phrase.
Ah oui. Vas-y, rosse-moi.
Non.
C'est toi que je rosserai.
Et c'est devenu effectivement un proverbe quasiment. Enfin, c'est proverbial.
Qui veut battre.
Et c'est Molière qui l'a inventé, ce proverbe, en quelque sorte.
Qui aime bien, traite bien.
Ah non, mais non. C'est pas mal, ça.
C'est pas tenir sa langue, quelque chose comme
non
ça.
Plus. Non plus.
You talk to me.
Non, la parole est d'argent.
Oh la vache.
D'argent.
Fuck my wife.
Voilà.
Non, c'est bien sérieux parce qu'il parlait pas anglais à l'époque.
Fuck my wife.
Bah si, les anglais, si.
Elle a raison.
Oh la connasse. On parle de Molière.
Alors, le proverbe est pourtant très connu, hein, et là, il tombe pile poil dans cette scène, évidemment.
C'est pas celui qui dit qui est.
Ah non, mais ça fait trois fois que vous me le dites.
C'est l'équivalent de ça, quoi.
Non, mais ça veut dire, le sens est... Mais
non,
dis-toi,
justement, c'est pas l'équivalent de ça. Celui qui dit qui est, ça ne veut pas dire la même chose.
Là, il est en train de dire vous vous sentez visé, alors que non. Qui se sent morveux, ce moucle?
Bonne réponse, Isabelle Mergo.
Voilà.
Elisabeth.
Je t'explique comment j'ai fait, Karine. J'ai mis, si tu veux, tous mes neurones en branle.
Ouais.
Tu vois?
En branle.
Voilà. Alors, c'est
qui se sent morveux.
Un cerveau.
Se mouche.
Qui se sent morveux, qui se mouche. Qui se sent morveux, se mouche. C'est un proverbe devenu célèbre grâce à Molière. Dans la Var.
Jusqu'à 4h30. Écoutez ou réécoutez les grosses têtes sur RTL. RTL, le livre du jour.
Le livre du jour est signé Stéphane Marie, c'est Ma France des Jardins, publié chez Flammarion. Stéphane Marie, vous le connaissez évidemment, puisqu'il anime Silence, ça pousse sur France 5 depuis pas mal de saisons déjà. Il nous dira depuis combien d'années, mais depuis plus de 20 ans, je crois. Et là, alors, il nous fait visiter de magnifiques jardins, Ma France des Jardins. Il dit d'ailleurs que ça a été très compliqué pour en choisir 27, mais c'est déjà pas mal, 27. Là, je vois par exemple les jardins du château de Villandry, c'est en Indre-et-Loire. Et il nous raconte que dans ces jardins, à Villandry, au mois d'août, le soir, évidemment, on peut y trouver 2000 quoi dans ces jardins ?
Des papillons ?
Non, des papillons, non.
Des animaux,
des insectes ?
Des insectes, non. Non, non, c'est très joli d'ailleurs. Il y a une photo où on voit effectivement là-bas à Villandry le jardin, mais le jardin dans des conditions un peu spéciales.
Parce c'est minéral ?
On y a mis 2000.
Lampions. Des lampions ?
Pas des lampions, mais
des bougies, des lampions.
Des bougies, bonne réponse ! De Christophe Barbier, 2000 bougies, ça doit être magnifique. Ah ouais. Bonjour.
Je suis allé à Villandry pour un mariage et c'est en effet très très beau. C'est des jardins absolument magnifiques.
Bonjour Stéphane Marie.
Bonjour, vous allez bien?
Bonjour.
Combien
bonjour.
D'années, silence, ça pousse alors?
26.
26 oh ans. Ah ouais, vous étiez jeune jardinier, hein?
Ah ouais, j'étais beau, j'étais jeune.
Et moi, j'ignorais que c'était dans votre propre jardin que vous réalisiez cette émission.
Depuis le début. Ce qui fait qu'on a le temps de regarder pousser les arbres, les plantes, et de dire, bah celle-là, on l'a plantée il y a 20 ans, regardez comme elle est belle.
C'est à Saint-Pierre d'Arteglise, c'est
ouais,
ça?
Oui, c'est dans le Cotentin.
Dans le Cotentin, c'est votre propre terrain. Combien de terrains alors, monsieur Marie?
Bah en fait, c'était la ferme de mon tonton, donc il y a de la place, et on entretient à peu près un hectare.
Un hectare. Ben alors, ça veut dire que à chaque fois, vous faites venir les caméras de télévision ou elles sont fixées là-bas et c'est fini?
Non, non, tout le monde déboule avec le van et le matériel. Ils sont sept dans la voiture. Ça, c'est épique, mais c'est sympathique.
Et vous avez déjà épuisé trois femmes, il faut bien dire.
Alors, je ne le dirai pas de cette façon-là.
une pensée pour ma camarade, parce que je l'aimais beaucoup, Noël Bréham, qui a été la première à vos côtés. Je l'ai connue à l'époque de France Inter, Noël Bréham. Après, vous avez eu Caroline Munoz et puis Carole Tolila, c'est toujours elle?
Ouais, c'est toujours elle, ça fait 8 ans maintenant.
8 ans maintenant, silence, ça pousse. Rien que le titre, il faut dire, était bien trouvé, silence, ça pousse. Mais venons-en justement à ce livre, parce qu'il est publié aux éditions Flammarion, en accord évidemment avec l'émission Silence, ça pousse. Mmh. Et alors, il y a des jardins incroyables. En Normandie, je ne savais pas qu'il y avait la jungle, par exemple.
Voilà, c'est exactement comme ça que j'avais envie d'aborder ce tour de France. C'est-à-dire que la France, c'est un pays depuis 50 ans qui s'est remis au jardin. Vraiment remis, parce qu'il avait un peu oublié le jardin. Et je voulais montrer la richesse, la diversité et la beauté. Et le jardin jungle, c'est vraiment un exemple de ça. C'est une ancienne forêt de Picéa, dans laquelle Charles Boulanger a planté des choses venues du monde entier, qu'il a collectées en altitude, pour qu'elles soient un peu résistantes au froid. Et ça crée un univers absolument fou.
Et c'est donc la jungle au milieu de la Seine-Maritime, à eux précisément.
À eux, absolument.
Eux, en Seine-Maritime, avec... Alors, ce qui est bien dans le livre, c'est que pour les 27, hein, j'ai dit 27 jardins, il y a tous les horaires d'ouverture, les périodes. Alors, certains ne sont pas ouverts toute l'année. S'il y en a un jardin qui est ouvert été comme hiver, hein, je crois.
C'est possible.
Ah bon?
Non, c'est sûr qu'il y en a, qui sont ouverts été comme hiver. Erignac est ouvert toute l'année, par exemple.
Eh ben voilà, parfait. Le jardin botanique de Vauville, puis après je vais quitter le nord de la France, ça c'est dans la Manche.
Ouais.
Vous dites qu'il y a trois générations de botanistes.
Guillaume et Éric.
Et ça c'est le jardin des voyageurs. Pourquoi le jardin des voyageurs?
Bon, en fait, Guillaume Pellerin avait voulu, je pense, s'éloigner du terme botanique pour faire un peu rêver les gens et puis raconter un peu mieux ce qui se passait dans le jardin. Parce que là encore, c'est un jardin du voyage, c'est un jardin où on acclimate depuis trois générations. Des plantes venues de partout.
Dans le sud, j'imagine qu'on a plus de plantes facilement qu'en Normandie, par exemple. Et que les jardins sont encore plus beaux, non?
Eh ben, je dirais pas
ça.
Ah, ça c'est intéressant.
Je dirais pas ça parce que c'est difficile le sud. C'est-à-dire qu'il faut des plantes qui résistent à la chaleur, qui résistent à la sécheresse, et parfois même au froid, parce qu'il y a des endroits où il peut faire froid, il peut faire froid l'hiver à Toulouse. Moi je suis un gars du nord, donc mais je me sens assez mal à l'aise dans le sud, mais il y a des choses comme le jardin des Martels qui sont absolument formidables, on se croirait à Bali.
Vous visitez régulièrement ces jardins, il y a de magnifiques photos, hein, il faut dire, pour l'album, on a envie d'y aller, les horaires d'ouverture, un week-end, voilà. Il y a même des endroits où on peut loger d'ailleurs, il faut le dire.
Oui, il y a des jardins qui vous accueillent et qui vous hébergent. Par exemple, j'étais à Valmer la semaine dernière et il y a des gîtes où les gens peuvent dormir.
Où est-ce qu'on trouve des beaux labyrinthes? Parce que ça, moi, j'aime bien, dans un beau jardin, un beau parc tel qu'il y en a autour des châteaux parfois, tout ce qui est en forme de labyrinthe. Hein. Ah bah oui, c'est sympa les labyrinthes.
Ah oui. Bah, à Valmer, par exemple, il y en a un sur la terrasse du haut. Un beau labyrinthe de charme.
À Villandry aussi, je vois.
Oui, il y en a un à Villandry,
bien
entendu.
Mais c'est quoi un labyrinthe de charme?
Le charme, c'est le nom de l'arbre.
Ah.
Mais voilà, c'est pas mal non plus, quoi.
Non, mais je croyais que c'était un labyrinthe, justement.
Où on peut courir tout nu.
Il y avait des prostituées au chaque. Il y avait des petites alcôves.
On finit.
Ça sert à ça, les labyrinthes.
Ben oui, on y finit un peu plié.
Oh là. Mais dites-moi, est-ce que vous croyez, j'ai un problème avec une plante, j'en ai qu'une seule, hein. Est-ce que vous pensez que...
J'étais en train de penser, ça vous amuserait pas de faire les grosses têtes de temps en temps, Stéphane Marie?
Pourquoi pas en hiver, quand je suis à la maison?
Je me fais chier.
Pourquoi en hiver?
Parce qu'il y a rien qui pousse.
Pourquoi pas les autres saisons? Pourquoi en hiver,